Bonjour à tous, c'est le moment de retrouver Un moment pour la Terre, cette émission mensuelle avec France Nature Environnement, dont Pierre Gottardi, président de France Nature Environnement, est ici pour nous parler du sujet délicat de la durance. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous et merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la durance et des démarches qui se profilent derrière en termes de gestion de l'eau et de l'ensemble du bassin versant. Je vais vous faire aujourd'hui une présentation de la durance et puis il y aura une deuxième émission qui sera faite en partenariat avec le syndicat d'aménagement de la vallée de la durance qui viendra présenter la démarche en cours, le schéma d'aménagement de gestion des eaux de la durance pour expliquer un petit peu tout ce qui se passe autour, les réflexions, qui est associé, comment on fait la démarche, etc. Et surtout le fond, le contenu et l'objectif. Bien, alors la Durance et son bassin versant. Donc la Durance est le deuxième affluent du Rhône après la Saône pour la longueur et la troisième après la Saône et l'Isère pour le débit. Longue de 323 km, la Durance est la plus importante rivière dans notre région puisque c'est le courant principal, hein, la principale rivière qui irrigue l'ensemble de la région, exception faite peut-être des Alpes-Maritimes et encore. Capricieuse, toujours redoutée pour ses crues, puisque c'était un des trois fléaux de la Provence avec le Mistral et le Parlement, elle a été soumise à un effort continu d'aménagement à des fins hydrauliques, à des fins d'eau potable pour l'agglomération marseillaise, à des fins agricoles, puisqu'aujourd'hui elle irrigue 75 000 hectares de culture, et bien sûr hydroélectrique avec l'aménagement Durance Verdon, puisqu'on produit entre 6 et 7 milliards de kilowattheures par an. Donc le nom de Durenza, ou Duranzo en provençal, provient d'un hydronyme qui est dur ou dru et qu'on retrouve partout dans les Alpes occidentales, qui veut dire la rivière, quoi. Voilà, donc c'est la Doire en Italie, c'est la Drance, c'est le Drac, c'est la Drôme, elles ont toutes le même hydronyme au départ. Donc dans sa partie amont, la Durance est un torrent qui est bien plus faible que ses affluents, la Clarée ou la Guisane. Et en fait, le nom de la Durance est probablement imposé sur ces deux autres torrents parce que la vallée de la Durance est devenue une voie de communication importante et ancienne, alors que la Clarée et la Guisane butent sur des cul-de-sac au fond de leur vallée, hein, avec le col du Lautaret qui n'est pas toujours facile à passer en mauvaise saison, et le col des Rochers qui est un vrai verrou. Donc la Durance prend ses sources à 2400 mètres d'altitude auprès de Gondran, donc sur la commune de Montgenèvre dans les Hautes-Alpes, près de la frontière italienne. Alors on va faire un petit peu de géologie parce que le fonctionnement d'un cours d'eau est fortement lié à la nature géologique de son bassin versant, car d'une part le ruissellement des eaux de pluie dépend de la perméabilité des roches en surface et d'autre part la quantité d'eau souterraine disponible est liée à la nature des roches sous-jacentes. Donc par exemple les formations de calcaire qui se représentent les principaux réservoirs d'eau souterraine dans notre région. Donc c'est important de le savoir. Et l'interaction de ces deux paramètres, nature des roches et perméabilité de ces roches, détermine en grande partie le régime hydrologique du cours d'eau au cours du temps. Voilà. Donc la structure géologique le long de la Durance, on va la prendre en trois parties, la partie haute Durance, moyenne et basse Durance. Depuis sa source, la Durance traverse les formations géologiques variées, aussi bien sur le plan de la nature des roches que sur le plan de la structure tectonique. Par exemple, le tracé de la Durance est en partie déterminé par des failles majeures, en haute moyenne, en haute et moyenne Durance. De l'Argentière abaissée à Mont-Dauphin, la Durance suit la faille de haute Durance, qui est une faille toujours active, notamment avec le séisme du 26 février 2012 qui a secoué Saint-Paul-sur-Ubaye. Et de Pépin au pont de Mirabeau, elle suit la faille de la moyenne Durance, qui est la faille la plus active en France, avec par exemple un séisme le 19 septembre 2012 à Volx. Donc la Durance prend sa source au pied du mont Chenaillet, sur une ancienne croûte océanique formée au fond de l'océan Liguro-Piémontais, qui date d'environ 150 millions d'années. Dans la région de Briançon, la Durance traverse une zone de terrain sédimentaire très variée, orientée nord-ouest-sud-ouest, sud-est, poussée violemment vers l'ouest par la tectonique alpine. Et ces terrains butent à l'ouest sur le socle ancien du massif du Pelvoux, qui est le résidu d'une vaste chaîne de montagnes de dimension européenne, bien plus vieille que les Alpes, qu'on appelle la chaîne hercynienne. Les roches sont de nature métamorphique et magmatite, donc très compacte et résistante à l'érosion. De Guillestre à Sisteron, la Durance parcourt des terrains moins compressés par la tectonique alpine. Ce sont des terrains sédimentaires du Jurassique, du Crétacé ou du Tertiaire. À dominante calcaire, c'est ce qui forme les barres rocheuses, et marneuses, ce sont toutes les terres grises ou noires qui sont très facilement érodables. Les parties de la vallée de la Durance les plus larges correspondent aux marnes, puisqu'elles sont sont très tendres, hein, mais qu'elles favorisent en même temps, elles sont imperméables et donc elles favorisent les eaux de ruissellement. Les parties les plus resserrées, par contre, correspondent aux puissants bancs glaciaires, comme la Clue de Sisteron, par exemple, qui fait vraiment une porte d'entrée de la Durance vers l'aval. Donc, au sud de Sisteron, les structures géologiques s'orientent plutôt est-ouest, montagne de Lure ou Luberon, la poussée alpine dans cette région-là venant par le nord. Ainsi, côté ouest, on trouve surtout des terrains crétacés, avec davantage de terrains calcaires, souvent karstiques, pouvant représenter des réserves d'eau souterraines importantes. La région de Manosque montre surtout des terrains tertiaires qui sont le siège d'importantes formations salifères. Hein, on connaît notamment le stockage des produits pétroliers et du gaz dans des massifs de sel gemme. Côté est, on trouve le vaste plateau de Valensole qui est un ancien delta formé de poudingues très perméables, entrecoupé de niveaux argileux, le tout de manière très hétérogène. Cet ensemble, qui récolte les pluies sur une grande surface, les réinjecte probablement dans la Durance, notamment via ses affluents, la Bléone, l'As et le Verdon, où les sources viennent abonder. Mais ces affluents récoltent aussi des eaux souterraines de la partie amont de leur bassin versant respectif, formées de roches sédimentaires jurassiques, crétacées et tertiaires, souvent fortement plissées, composées de calcaire et de marne, les vallées correspondant le plus souvent aux parties marneuses qui sont facilement érodables. En revanche, le secteur des gauches du Verdon correspond à un vaste plateau calcaire de caractère karstique, globalement très perméable. À partir de Mirabeau jusqu'à la confluence avec le Rhône, la Durance s'aligne sur les structures géologiques est-ouest et coule à peu près vers l'ouest. La géologie y est moins bousculée par la tectonique alpine, avec des formations plus récentes, surtout crétacées et tertiaires. Sur le plan hydrographique, la Durance prend sa source à 2400 mètres, donc au sud de Montgenèvre, jusqu'au confluent avec la Durance, elle parcourt plus de 300 km. L'originalité du cours est sa pente, ce qui est un paramètre très important dans le cadre de la Durance. Elle commence à 8,1% sur les 12 premiers kilomètres, puis 1,5% jusqu'au confluent avec la Gironde. La Gironde, c'est le torrent qui descend du glacier Blanc et d'Elfroide. Et encore près de 0,8% jusqu'au confluent de l'Ubaye. Cette pente reste élevée dans sa partie inférieure puisqu'elle est de 0,3% dans son cours moyen, donc la moyenne Durance jusqu'à Mirabeau, et de 0,23% dans son cours inférieur. Quand on compare l'Ubaye avec d'autres cours d'eau comme l'Isère, on s'aperçoit que cette dernière, à environ 100 km de sa source, l'Isère coule à 300 mètres d'altitude. La Durance, avec la même distance, est à 700 mètres à Serponçon. Donc ce fait contribue au caractère torrentiel de la rivière, y compris dans le cours inférieur. Le dénivelé d'Durance jusqu'à son confluent est de plus de 2000 mètres de dénivelé, ce qui est vraiment très très important. Et c'est en partie une des caractéristiques des écoulements de la Durance. Jusqu'au lac de Serponçon, la Durance draine une vallée plus ou moins large, entourée de hautes montagnes du massif cristallin du Pelvoux et des Cerces. C'est une rivière alpine au régime nival, avec des hautes eaux en juin et un débit soutenu même en été. Le torrent issu du Montgenèvre se jette dans la Clarée puis reçoit la Guisane à l'aval de Briançon. Quand elle prend la direction du sud, la Durance reçoit les eaux de la Gironde, donc comme je disais, qui draine les massifs glaciaires, donc du glacier blanc, glacier noir et le massif d'Elfroide, hein, qui donc y conflue à l'Argentière-Abessier. Puis elle s'infléchit vers le sud-est jusqu'au confluent avec le Guil au pied du Mont Dauphin. Elle repart vers le sud-sud-ouest pour se jeter dans le lac de Serponçon, un peu en aval d'Embrun, là où se faisait la confluence avec l'Ubaye. Un tout petit mot sur les glaciers, parce qu'en fait, le rôle des glaciers est très important, car ils constituent une réserve d'eau disponible dans les périodes de sécheresse, qui sont souvent les plus chaudes, augmentant alors le débit d'eau issu des glaciers. Leur forte décroissance au cours des 30 dernières années, et pour certains d'entre eux, leur disparition, auront des conséquences majeures sur l'évolution naturelle du débit de la Durance, accentuant notamment les périodes d'étiage. À ce jour, le volume résiduel des glaciers de l'Oisans est inférieur à la capacité de Serponçon. Entre Serponçon et la Clue de Mirabeau, on est sur la moyenne Durance. Au pied du barrage de Serponçon, la rivière coule au sein d'une vallée assez large qui est bordée en rive droite par le massif du Colombis et en rive gauche par les crêtes qui relient la montagne des Plisses à celle de la Cita. La Durance est aujourd'hui réduite à un petit débit qui coule au sein de son ancien lit qui se végétalise beaucoup en de nombreux endroits, ou alors qui est occupé par des activités agricoles. Jusqu'à Sisteron, elle récupère un certain nombre d'affluents en rive droite, comme l'Avance ou la Luye, et quelques modestes contributeurs en rive gauche, avant de rencontrer le Mousson et le Sas juste en amont de la clue de Sisteron. À la sortie de cette clue, la Durance reste entourée de collines ou de plateaux, mais la vallée s'élargit en une plaine alluviale de plusieurs kilomètres de large, puisqu'elle fait 5 km à Manosque, hein, qui a été récemment aménagée avec le développement d'une agriculture moderne et la construction de l'autoroute A51. La rivière reçoit les eaux de la Bléone, près d'Aimé, de l'As, donc au sud d'Oraison, puis conflue avec le Verdon à proximité de Cadarache. Sur un plan hydrogéologique, au confluent de la Bléone, on trouve de larges nappes alluviales du Quaternaire, dont les alluvions les plus anciennes sont cimentées par du carbonate de calcium. Et donc, cette vallée de la moyenne Durance comporte quatre couches de sédiments superposés. Donc en profondeur, on a une nappe alluviale grossière d'environ 40 mètres d'épaisseur, qui date de la glaciation du Ris, qui est surmontée d'une couche de limon de 20 mètres d'épaisseur environ, datant de la même époque. Par-dessus, on trouve un paléosol parfois recouvert de gravier apporté par des ruissellements torrentiels et enfin une couche de colluvions superficielles, ce sont les alluvions qu'on voit de la Durance qui font entre 6 et 10 mètres d'épaisseur. Plusieurs barrages ont été construits tout le long du cours de la moyenne Durance, hein, donc Espinasse, Sisteron, Lescale, Cadarache, mais en fait ces barrages ce sont des prises d'eau, c'est-à-dire le but essentiel est de dévier l'eau récoltée dans le tronçon intermédiaire pour le remettre dans le canal EDF qui alimente donc des turbines, des usines hydroélectriques au fil de son cours. Les lacs qu'il crée ne peuvent pas servir à réguler le cours de la rivière. La basse Durance, de Jouques à Avignon. La vallée se resserre sur quelques kilomètres avec le franchissement de la clue de Mirabeau, qui coupe un anticlinal de calcaire jurassique. Elle s'élargit ensuite de nouveau en une plaine encore plus large qu'au confluent avec le Rhône. Encore plus large jusqu'au confluent avec le Rhône, pardon. Son orientation passe de nord-sud à est-ouest, comme les petits chaînons provençaux entre lesquels elle coule, donc les Alpilles en rive gauche du côté sud et le Luberon en rive droite du côté nord. La Durance jusqu'au Rhône ne reçoit qu'un seul affluent significatif, c'est le Coulon qui contourne le massif du Luberon par le nord. Sur le plan hydrologique, la rivière dite capricieuse était autrefois redoutée pour ses crues aussi bien que pour ses étiages, car elle a un double caractère, à la fois alpine, avec les glaciers en altitude, et méditerranéenne dans la part, à partir sur la moyenne Durance et la basse Durance. Son bassin versant total est de 14 225 km². Au confluent avec le Rhône, le débit naturel moyen Durance est d'environ 190 m³/s avec une forte variabilité annuelle. Elle peut en effet varier de 40 m³ lors des étiages les basses eaux les plus sévères, jusqu'à 6000 m³, qui sont la valeur de la crue millénale, crues qui ont été recensées au XIXe siècle. Le maximum annuel se produit généralement en mai ou en juin, avec la fonte de la neige et des glaciers, mais les crues les plus violentes surviennent souvent à l'automne. L'étiage a lieu en hiver dans la haute vallée, puisque quand il fait froid, il n'y a plus de précipitations liquides, et en été dans les parties moyennes et inférieures du cours, où là, ce sont les pluies qui abondent le cours d'eau.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, J'irai danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Voilà, on reprend donc un moment pour la Terre avec Pierre Gottardi.
Oui, merci. Donc, nous allons parler un peu des crues sur cette rivière réputée. Donc, la Durance a toujours été effectivement réputée de tout temps pour son cours instable, impétueux et changeant. Et elle est même citée par des écrivains romains comme Tite Live pour la difficulté de sa traversée, ou bien Silius Italicus, un poète latin qui louait son caractère torrentueux. Ces crues violentes et fréquentes sont dues à une combinaison de facteurs. Un bassin montagneux à forte pente, des roches sensibles à l'érosion qui augmentent le volume des torrents et leur pouvoir destructeur à travers la formation de laves torrentielles. Un couvert végétal peu protecteur, voire absent, à la fois pour des raisons naturelles, pauvreté du sol par exemple, avec des sols marneux, les terres noires, les roches jurassiques ou crétacées, et anthropique, donc le déboisement. Enfin, le régime de précipitations méditerranéen, caractérisé par des précipitations assez peu fréquentes et violentes. Il en résulte une lame d'eau ruisselée de 63%, ce qui est très élevé par rapport à d'autres cours d'eau. Donc la hauteur de la lame d'eau écoulée à Cadarache est de plus de 470 mm pour une moyenne de 750 mm de précipitation, ce qui est effectivement très très important par rapport à d'autres cours d'eau. À Mirabeau, les basses eaux, ce qu'on appelle l'étiage dans notre jargon, de 40-45 mètres cubes seconde. Mais quand on le compare avec la crue millénale capable, qui a été mesurée au 19e siècle, on a un rapport de 1 à 133. Et on a mesuré des étiages en 1921, et un très très fort étiage qui est descendu à 27 mètres cubes seconde, c'est-à-dire près de la moitié de ce qu'on constate en temps normal. Ça veut dire que les variations sont vraiment gigantesques, quoi. Donc, les crues historiques, on en ressent depuis très très longtemps, puisque bon, il y en a une qui est recensée en 1345, à l'automne 1345, en septembre 1651, mais ces crues historiques n'ont pas été documentées sur le plan quantitatif. Donc on ne les a dans les références que parce qu'elles ont provoqué des dégâts très importants. Voilà. Seuls les dégâts ont laissé des traces dans la mémoire locale. Par contre, au XIXe siècle, il y a des choses qui ont été un petit peu plus documentées et un peu plus chiffrées. Et donc, même si on n'a pas de série de relevés de précipitations vraiment précis ou des crues, on a quand même un certain nombre de crues torrentielles. D'abord, le nombre de crues torrentielles augmente au XIXe, et ces crues ont eu lieu majoritairement de juin à août, donc elles sont liées à des pluies orageuses. Et entre 1832 et 1890, sur la Durance, on a recensé 188 crues. Donc si vous faites le calcul, ça fait 3 crues par an, de plus de 3 mètres. Donc sous le pont de Mirabeau, il y avait une échelle et on mesurait la hauteur d'eau pendant la crue, ce qui permettait d'avoir une idée de son importance. Et les principales crues recensées et évaluées sont des crues réputées millénales, donc c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, en 1843, 1856, 1886, qui atteignent entre 5000 et 6000 mètres cubes secondes selon les auteurs. Si on compare par rapport à la crue historique de la Seine de 1910, la crue a atteint à son plus fort 2400 mètres cubes. Donc on est à plus du double sur la Durance. Donc La crue automnale de 1843 a été particulièrement documentée et on peut la chiffrer à 1600 m3 à Serre-Ponçon, le Bêche à sa confluence 1200 m3, ce qui porte le total à plus de 3000 m3 à Sisteron. La Bléone avait alors un débit de 1200 m3 à son confluent, l'As 900 m3 et le Verdon 1400 m3 à Sainte-Croix, au niveau de Sainte-Croix. Donc grossi du débit de ses affluents, la Durance a atteint 4000 m3 au Mai, 4800 à Manosque, 5500 à Mirabeau et près de 6000 à la confluence. Voilà. Donc elle a emporté une grosse partie des ponts qu'il y avait en travers du Rhône, donc à Rémollon, au Mai, à Manosque, le pont inachevé de Mirabeau, etc. Au XXe siècle, les aménagements hydroélectriques ont sensiblement modifié le régime des crues ordinaires et moyennes. Parce que la capacité de Serre-Ponçon permet, en jouant sur son remplissage, de stocker les petits débits. Par contre, les études qui ont été faites montrent qu'ils n'ont pas d'influence sur les crues majeures. D'une part, parce que les crues les plus violentes pour la basse vallée se forment sur la moyenne durance, donc l'axe Bêche-Bléone-Verdon, comme le montrent les grandes crues du 19e, donc à l'aval des grands réservoirs. Et d'autre part, parce que ces grands réservoirs ne sont pas conçus et gérés pour équiter les grandes crues, leur volume étant notablement insuffisant. Hein. Et donc la crue, par contre, elle peut passer par-dessus le barrage. Elle est légèrement modifiée, c'est-à-dire que le débit de pointe est légèrement amoindri. Voilà. Donc des crues importantes ont été observées en 1957 et 1994. Pour 1994, on a la valeur de 2800 m3 qui a été mesurée à Mirabeau en janvier 1994 et une deuxième fois en novembre 1994. La dernière crue notable qui est recensée, mais qui est de moindre importance, c'est 2008, où a été enregistré un débit de 800 m3 au pied de Serre-Ponçon, enfin au niveau du barrage de Serre-Ponçon. Donc c'est à peu près une crue centenale, qui s'est couplée par contre avec une crue sur le Bêche. Et donc le gestionnaire des aménagements, EDF, a pu faire passer la crue du Bêche avant la crue de la Durance, en jouant sur la capacité de stockage de Serre-Ponçon.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marais, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur, plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenez, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer, pour voir ce sourire d'enfant, ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer. Le soleil se lève aussi, le soleil se lève aussi, le soleil. Et si l'espoir revenais. Tu ne croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait? Pour la noirceur du soleil sur le sable des marais, pour ta beauté au réveil, pour mon calme retrouvé. Et si l'espoir revenait? Tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait?
Voilà, donc on reprend Un moment pour la Terre avec Pierre Gottardi.
Alors, sur la base de cet état des lieux, FNE, donc PACA et FNE Alpes-de-Haute-Provence souhaitent effectivement porter un certain nombre de regards sur les évolutions qui sont apparues dans ce bassin versant pour pouvoir après poser des questions dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dont on parlera à la prochaine émission. Donc les principales évolutions qui sont identifiées dans le bassin versant peuvent être regroupées sous plusieurs thèmes qui nous inquiètent. Le changement climatique, en premier lieu. Donc la région PACA est directement concernée par le changement climatique et ses conséquences sont déjà perceptibles. Donc la température dans la région PACA a augmenté, alors on dit toujours de 1 degré à 1 degré et demi. En fait, en zone montagneuse, on est à 2 degrés et demi au moins. Il faut le savoir, il y a des études qui ont été faites. Quand on fait les statistiques sur le climat d'Embrun, par exemple, on est à 2,5 de réchauffement climatique sur les 30 dernières années. On s'aperçoit aussi que les précipitations ont diminué, puisque le cumul annuel dans le département a perdu 50 mm en 30 ans. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les épisodes de pluie sont plus courts et plus violents, avec des cumuls de pluie qui augmentent très fortement lors de ces événements. Ce qu'on constate aussi, c'est que les perturbations aujourd'hui sont beaucoup plus fortes. Et donc, on a des perturbations du type méditerranéenne qui sont puissantes et qui pénètrent aujourd'hui beaucoup plus profondément vers les territoires plus montagneux, vers l'intérieur de la région PACA, et qui ne se contentent plus de rester sur la côte. Et donc là, on voit arriver sur nos zones de préalpes, Digne et puis comme en Manosque et le Sisteron, etc., on voit arriver des précipitations qui font des cumuls de pluie importants, comme si on était, comme les fameux épisodes Cévenol qu'il y avait de l'autre côté sur les Cévennes qui ont toujours été connus. Mais là, en fait, on voit que ces épisodes qui s'appellent maintenant méditerranéens viennent sur l'ensemble de la côte et pénètrent à l'intérieur de la région de manière de plus en plus profonde. Ce qui est quand même important de savoir, puisqu'on a affaire à des phénomènes qu'on n'avait pas identifiés, notamment dans les règlements de construction ou autres, en termes de lames d'eau à prendre en compte. Les épisodes de sécheresse sont aussi plus sévères et plus longs qu'avant. Et puis, ça tout le monde peut le constater, c'est la remontée du manteau neigeux de plus en plus haut. Alors aujourd'hui, on a une remontée de manteau neigeux vers 1800-2000 mètres pour avoir de la neige de manière permanente. Mais cette disparition du manteau neigeux a des conséquences parce qu'elle prive la moyenne montagne de ce stock d'eau hivernale qui permet de forts débits au printemps, au moment du départ de la végétation et des cultures. C'est-à-dire que dans la région PACA, on a une culture de l'irrigation depuis très très longtemps, puisqu'on a des canaux qui remontent probablement à l'époque romaine. Et donc, il y avait beaucoup d'eau au printemps, donc c'était pratique d'irriguer les cultures avec cette eau de fonte. Bon, aujourd'hui, quand on n'a plus de fonte, on a beaucoup moins d'eau au printemps, et il faut compter sur les pluies printanières, ce qui n'est pas toujours assuré, il y a qu'à voir ce qui s'est passé en 2022. Voilà. Mais la conséquence aussi secondaire de l'approvisionnement des réserves de neige, c'est qu'en fait, on n'a plus de fonte locale qui alimentait les réserves souterraines de ces massifs. Et donc où aujourd'hui, on voit diminuer le débit de certaines sources et on voit même s'assécher, comment, temporairement, mais on les voit qui s'assèchent. Voilà. Et ça, c'est un signe de la diminution des eaux stockées de manière souterraine dans les réserves naturelles, dans les réservoirs naturels. Et puis, comment dire, la conséquence aussi, c'est que si on n'a plus de neige, on modifie, donc on n'a plus de débit de fonte au printemps, et donc on modifie le régime des cours d'eau concernés. Et donc aujourd'hui, pratiquement tous les cours d'eau qui sont inférieurs à 2000 mètres d'altitude deviennent des cours d'eau pluviaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de soutien nival. Et donc ça veut dire qu'ils sont dépendants uniquement des pluies et du régime des pluies qui se produit. Donc une année pluvieuse, il y aura de l'eau. Une année moins pluvieuse comme en 2022, eh ben, on aura des étiages extrêmement difficiles et donc des conflits sur l'usage de l'eau, puisque dans tous les bassins versants, il y a souvent des conflits entre l'eau potable, l'eau d'irrigation, l'eau industrielle, etc. Donc dans ce contexte de perturbation des régimes hydrologiques, la préservation de la quantité et de la qualité des eaux souterraines est primordiale. Parce que quand on n'aura plus d'eau en surface, on ira chercher, peut-être, dans ces volumes stockés, s'ils sont importants, de quoi assurer l'avenir, notamment de l'usage de l'eau potable. Parce qu'en fait, dans notre région, la population continue à augmenter. Alors, plusieurs facteurs, hein. On a l'héliotropisme, ce qu'on appelle donc l'attirance des zones ensoleillées. Et c'est vrai que, comment dire, on a une augmentation régulière de la population qui vient chercher le soleil, avec un certain art de vivre associé, hein. Et alors, on parle toujours des retraités, mais pas que. Donc, il y a des gens qui cherchent effectivement des lieux de résidence plus calmes, plus éloignés de Paris, hein, donc le... Et donc ça, c'est permis parce qu'on a accéléré les déplacements avec le TGV, avec les autoroutes qui sont construites et qui sont en fonctionnement. Et puis surtout, le télétravail qui est mis en place dans pas mal d'entreprises. Et puis, on a aussi le développement économique de la région avec des zones industrielles autour de l'étang de Berre, par exemple, ou le pôle de Cadarache avec donc, tout ce qui tourne autour de la fusion nucléaire. Et puis, on a aussi un phénomène qu'on voit petit à petit émerger, c'est-à-dire que la Côte d'Azur est saturée, et donc, en fait, il y a un report vers l'arrière-pays des touristes de manière générale. Mais on a aussi aujourd'hui l'émergence d'un tourisme de luxe, hein, qui est donc... les gens, ils ont de l'argent, ils peuvent se développer, ils peuvent se déplacer facilement en avion. On a Nice, Côte d'Azur, on a Marseille de l'autre côté. Et puis, on a effectivement des gens qui cherchent un tourisme de luxe tranquille, avec des golfs arrosés à grands coups d'eau de la SCP ou des choses comme ça. Je suis un tout petit peu taquin. L'urbanisation et la consommation d'espace, malgré les taux d'accroissement prévus dans le SRADET. Alors le SRADET, c'est un schéma régional qui a été approuvé par l'Assemblée régionale. Hein. Ce n'est pas du tout une action de l'État. La population de la région augmente et l'artificialisation des sols continue. Alors, on constate que dans les communes rurales, il y a effectivement des phénomènes de décohabitation des familles. Ça, c'est tout à fait normal que les familles puissent être indépendantes et avoir chacun leur habitation. On voit l'émergence beaucoup de résidences secondaires dans les petites communes où les gens voudraient, ne serait-ce que les gens qui habitent à Marseille, voudraient pouvoir s'installer le week-end ou pendant les vacances. Et puis, on a de nouveaux habitants qui arrivent, qui souhaitent vivre à la campagne avec des maisons individuelles. Et puis, avoir une piscine. Enfin bon, donc on a aussi des conséquences dans d'autres domaines. Et puis, on a aujourd'hui la construction des parcs photovoltaïques qui sont autant de prétextes à grignoter les surfaces agricoles, naturelles ou forestières. Voilà. Et ça, aujourd'hui, avec les objectifs de développement des énergies renouvelables qui sont fixés dans le département par le préfet, on a de l'ordre de 1000 hectares de parcs photovoltaïques qui sont en préparation. Donc ça, il faut quand même savoir. Et donc ça grignote des espaces agricoles, naturels ou forestiers, alors qu'en principe, on ne devrait pas se mettre dans les forêts. Enfin, bon, pour le moment, on continue à grignoter la montagne de Luant. Et puis, il y a aussi deux phénomènes qui sont récents, mais qui vont évoluer probablement de manière importante. C'est les hangars agricoles photovoltaïques. Donc ça, ma foi, c'est des outils de travail pour les agriculteurs. Enfin bon, c'est quand même à chaque fois des 1000 ou 1500 mètres carrés qui sont grignotés pour faire un hangar. Et puis surtout, c'est des équipements d'agrivoltaïsme dont on ne sait pas où on va aller. C'est-à-dire que la conjonction de l'agriculture et du voltaïsme avec des serres, etc., quand c'est bien géré et que comment chacun trouve son compte, on peut avoir des réussites. Mais quand on voit d'autres départements, d'autres expériences qui sont nettement moins favorables, on sait qu'il y a un endroit, alors je ne sais pas, c'est dans l'Ouest, on a 200 hectares de serres photovoltaïques qui font que du photovoltaïque. En fait, il n'y a plus personne qui cultive dessous. Donc, c'est un tout petit peu dommage. Et puis, ce qui facilite tout ça, c'est les déplacements des populations. Donc, les nouveaux modes de vie des populations urbaines intègrent les déplacements qu'on voit augmenter au fil du temps. Hein, aujourd'hui, les Lyonnais ou les Grenoblois sont dans nos départements dès le vendredi après-midi. Enfin, moi, je me suis souvent déplacé vers Grenoble pour des raisons familiales. Et en fait, il y a 20 ans, il n'y avait pas toutes ces voitures. Aujourd'hui, c'est un ruban ininterrompu depuis Grenoble jusqu'à chez nous. Hein, voilà. Et vous avez des sites d'escalade qui sont pris d'assaut toute l'année. Alors qu'il y a 10 ans, la fréquentation démarrait plutôt avec les ponts de mer. Enfin, je pense au Verdon, par exemple, où il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qu'il n'y en avait pas avant. Et le Covid a encore accentué ces phénomènes par la recherche de la nature et des zones préservées. Et l'amélioration des voies de communication constantes, hein, dont toutes les routes départementales qui sont maintenant mises à 90, c'est qu'elles ont été améliorées sur le plan de la sécurité. Hein. Donc, et ça permet des temps de déplacement beaucoup plus courts, avec des trajets beaucoup plus rapides, qui favorise des séjours plus réduits dans notre région, où le tourisme peut s'étaler sur des périodes où le temps est bien meilleur que dans le Nord. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des migrations saisonnières, allocations donc saisonnières pour l'été, allocations des petites vacances scolaires, mais aussi hebdomadaires, avec les RTT, etc. Voilà. Ce n'est pas une critique, mais c'est un fait. Par ailleurs, notre région très touristique, qui attirait les populations vers la Côte d'Azur, mais compte tenu du coût de ce tourisme, hein, la demande de vacances moins onéreuses et plus en lien avec la nature, soutenue par des campagnes de publicité pour un tourisme 4 saisons que mène notamment notre département, hein, génère une fréquentation touristique plus sportive, mais aussi plus longue dans l'année. Certaines activités, comme la randonnée à pied, le VTT, l'escalade, se pratiquant pratiquement toute l'année, quand il y a du soleil. Et donc, ces évolutions, elles posent quand même la question des équipements, des zones concernées, en matière d'eau potable, par exemple, parce que quand on a des touristes, il faut de l'eau pour les douches, il faut de l'eau, les gens souvent ont des piscines, donc il faut de l'eau pour la piscine, et on sait que, comment dire, tout ça, ça génère des eaux usées, on sait qu'il y a beaucoup de collectivités dont les stations d'épuration sont à peine au niveau où on pourrait l'exiger par rapport au rejet, hein. Mais aussi en énergie, parce que tout le monde veut de l'électricité, et en téléphonie. Donc l'État a développé des réseaux de téléphonie qui sont équipés en 5G, sans le dire, un peu partout dans le département, pour justement permettre cet accès par les touristes aux téléphones portables et donc aux outils qui vont avec. Voilà. Et ça, il y a derrière des difficultés techniques de desserte, hein, mais il y a aussi des capacités financières des collectivités, parce qu'elles veulent bien avoir des touristes, elles veulent bien pouvoir percevoir un certain nombre d'impôts là-dessus, mais quand il s'agit de faire des équipements du type station d'épuration ou renforcement d'eau potable, c'est un peu plus compliqué pour elles. Voilà. Donc tous ces paramètres, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on sent venir une pression sur la ressource en eau, la ressource en eau potable, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dit dans l'état des lieux, mais en fait, l'eau de la Durance alimente l'agglomération de Marseille, donc plus d'un million d'habitants, et l'eau du Verdon, à travers le canal de Provence, alimente toute la côte méditerranéenne entre Toulon et la limite avec les Alpes-Maritimes, Cannes. Donc toute cette côte est alimentée par de l'eau qui vient de la Durance. Donc c'est ce qu'on appelle non pas le bassin versant, mais des bassins déversants. Et aujourd'hui, on sait qu'avec l'évolution du climat, on va avoir moins de pluie, puisque je l'ai dit déjà dans l'exposé. On va avoir donc des saisons où on aura moins d'eau l'été. Or, si on perd la capacité des glaciers à donner de l'eau pendant l'été, on va avoir des débits d'étiage extrêmement importants. C'est ce qu'on a constaté en 2022, où on est arrivé avec des débits d'étiage extrêmement limités à l'entrée de Serre-Ponçon. Donc, on sent venir une pression sur cette ressource en eau, puisque les agriculteurs veulent irriguer, puisqu'il y a 75 000 hectares, je l'ai dit en début d'émission, 75 000 hectares qui sont irrigués sur la région PACA. Donc, la grosse partie, c'est dans Basse-Durance, avec des canaux d'irrigation historiques qui ont des débits extrêmement importants pour arroser. Donc, et puis, on a aussi la nécessité de faire de l'électricité. Donc, il faut qu'EDF puisse avoir de l'eau pour faire de l'électricité. Et puis, il faut de l'eau pour l'eau potable. Et puis, il faut de l'eau dans les ruisseaux. Parce que si on n'a pas d'eau dans les ruisseaux, on n'a pas de milieu aquatique et on a plus de biodiversité. Donc, on est aujourd'hui à un point où il est extrêmement important de se poser des questions de fond, de qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, on sait qu'on met l'eau, qui a droit, etc. Et donc, c'est l'objectif, effectivement, du SAGE, de mettre tout ça à plat sur la table pour pouvoir en discuter au sein de la commission locale de l'eau, qui est le parlement de l'eau dans le domaine, pour la Durance. J'ai résumé donc un certain nombre de points que FNE va porter à la clé. Donc, j'ai résumé sous forme de questions. Hein, voilà. Donc, la première question qu'on se pose, c'est justement la quantité d'eau par rapport au change, en fonction du changement climatique. C'est donc, il faut que le SAGE Durance apporte des réponses aux inquiétudes sur l'équilibre entre les volumes produits par la nature et les besoins des activités humaines à une échéance de 10, 30 ou 50 ans. Sur les futurs étiages, les futures périodes de basse eau, mais aussi sur la répartition géographique de ces volumes. Et puis aussi peut-être sur la répartition annuelle de ces volumes, puisque les agriculteurs n'ont pas besoin d'eau l'hiver. Hein. Par contre, on a besoin d'eau l'hiver, dans certains cas, pour faire de la neige artificielle. On n'a pas besoin d'eau pendant l'été, pour certaines activités, comme la production d'électricité. A priori, EDF en fait beaucoup moins l'été que l'hiver. Par contre, l'été, s'il y a beaucoup de gens, il faut beaucoup d'eau potable. Hein, voilà. Donc, il va falloir que le SAGE Durance mette en place des règles ou des préconisations pour agir dans les zones qui sont aujourd'hui déjà déficitaires, je pense au bassin versant de l'Asse par exemple, ou du Largue ou du Lauzon, ou bien qui vont devenir déficitaires du fait de l'évolution des conditions climatiques. Il faut aussi que on a parlé donc des étiages, mais on s'est aperçu que les pluies pouvaient être plus violentes sur des épisodes limités. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des crues plus violentes qu'avant. Et j'en ai encore parlé il n'y a pas longtemps avec un bureau d'études, et les gens se posent la question aujourd'hui de prendre de nouveaux standards pour déterminer les crues. Donc là, c'est pareil, il faut que le SAGE Durance apporte des réponses sur l'intensité des phénomènes à venir et donc préconiser des règles de gestion ou de renforcement des ouvrages de protection. Toute la base Durance, depuis Mirabeau jusqu'à Avignon, est parsemée de digues qui protègent les habitations contre les crues. Hein, donc la récurrence actuelle des crues qu'on prend en compte, c'est la bicentennale. Mais si comment la bicentennale devient la cinquantennale dans 10 ans ou 20 ans, il faut qu'on change un tout petit peu de paradigme. Voilà. Et puis le SAGE pourrait peut-être proposer des démarches nouvelles de gestion de ces ouvrages en vue de la résilience des territoires concernés. C'est qu'est-ce qu'on fait quand les ouvrages sont dépassés, comment les gens se protègent contre un phénomène un peu paroxysmal. Pareil, la question de l'alimentation des bassins hors bassin versant. Donc il va falloir qu'on élabore des règles de gestion, des volumes disponibles entre usages, entre sous-bassins versants, et par rapport à ces gros besoins externes. Donc il faut qu'on arrive à instaurer des règles de gestion basées sur des besoins qui doivent être priorisés, c'est-à-dire que l'eau potable passe avant l'eau d'irrigation, par exemple, et donc face à une ressource qui pourrait être plus aléatoire qu'aujourd'hui. Et puis, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est les milieux aquatiques. Or, les milieux aquatiques et l'eau potable sont les deux usages prioritaires qu'a imposé le législateur. Et donc, qu'est-ce que le SAGE peut mettre en œuvre pour conserver ou restaurer des milieux aquatiques en bon état face à toutes ces évolutions qui sont pressenties. Et puis, il y a un versant qui est important, c'est la qualité. Donc la qualité des milieux passe par la qualité des rejets polluants. Si on a moins d'eau et moins d'eau dans les cours d'eau, on a moins de dilution, donc on a moins d'auto-épuration. Donc, dans ce contexte, il va falloir peut-être que le SAGE engage une démarche pour toujours pareil, imposer ou prescrire pour améliorer ou garantir la qualité de la ressource irremplaçable à l'échelle régionale. Et ça rejoint un autre sujet qui est déjà prégnant dans notre bassin versant, c'est les eaux souterraines. Il y a beaucoup de captages d'eau potable qui ont été déclarés inacceptables pour l'eau potable, pour la desserte de l'alimentation potable, pardon, à cause des molécules chimiques qu'elles contiennent, qui sont à des taux bien supérieurs à la norme. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce que le SAGE peut engager ou imposer pour assurer la reconquête de la qualité des aquifères qui pourraient être utilisés localement alors qu'aujourd'hui, ils sont abandonnés? Donc, est-ce que le SAGE peut imposer une régulation plus forte des traitements chimiques, donc les fertilisants qui apportent des nitrates ou les pesticides qui contaminent les eaux? Et ça, pour limiter la dégradation des eaux souterraines qui seront probablement un capital dans l'avenir. Enfin, quelle action pourrait porter le SAGE pour identifier les autres polluants qui inquiètent les habitants par rapport à leur santé? Je pense aux polluants éternel, parce qu'on en parle beaucoup des PFAS aujourd'hui, mais et notamment et aussi tous les résidus médicamenteux humains et animaux. Parce qu'en fait, Il y a beaucoup d'animaux qui sont traités, et ça, on ne le sait pas. Et par contre, ça laisse des traces dans la nature. Et puis, comment on va intégrer ces mesures par rapport aux activités économiques ? Est-ce qu'il va y avoir un impact sur ces activités, ou bien comment on fait pour qu'on arrive à un fonctionnement, je dirais, équilibré et harmonieux de cet ensemble. Et puis la dernière partie, c'est plutôt sur l'aspect gouvernance, ce qu'on appelle, donc la gouvernance, c'est les gens qui effectivement pilotent le SAGE. Donc aujourd'hui, on a une commission locale de l'eau, donc qui sont en gros les représentations codifiées par le code de l'environnement des gens du bassin versant, qui sont essentiellement des élus et puis quelques consommateurs ou associations de défense de l'environnement et autres. Mais en fait, il n'y a jamais la société civile au sens global du terme. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir faire évoluer la gouvernance pour intégrer les bassins des versants. C'est-à-dire, on ne peut pas ignorer l'agglomération de Marseille ou la Côte d'Azur avec Toulon. On ne peut pas les ignorer, ce n'est pas possible. Et comment associer, par contre, les citoyens de ce bassin, du bassin versant lui-même et des zones desservies, à la réflexion pour les responsabilités dans leur vie quotidienne ou leurs activités professionnelles, et les associer aux actions à mener pour arriver à une gestion durable de la ressource commune. C'est très important. Et ça, aujourd'hui, il y a un déficit. Donc on va essayer, modestement, nous, FNO, de combler ce déficit, mais on n'est pas sûr de pouvoir y arriver comme ça. Voilà. Cette démarche SAGE va prendre du temps. Hein. Par contre, le changement climatique, il est déjà à l'œuvre, lui. Donc il faut agir vite. Alors, la dernière question qu'on peut se poser, c'est que c'est bien beau de réfléchir, c'est bien beau d'avoir des amorces de solutions, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des moyens d'avancer plus vite ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout de suite pour une gestion partagée et durable de la ressource en eau dans le bassin d'Adurance ? Voilà la question, la dernière question qu'on va se poser. Alors, sans dévoiler tout ce qu'il va se dire lors de la prochaine émission, aujourd'hui, on fait le catalogue de ce qui s'est fait, mais en fait, on ne voit pas surgir d'idées miracles pour faire des choses en harmonie avec ce qu'il faudrait faire. Donc, on attend les bonnes idées, etc. Et donc, on va modestement, nous, FNE, participer à des présentations du film sur la Durance. On a un film qui s'appelle Durance 360 avec une exposition. Et on va essayer de recueillir l'avis des gens, des citoyens. Qu'est-ce qu'ils pensent des problèmes principaux ? Est-ce qu'ils en ont qu'on n'a pas cité ? Qu'est-ce qu'ils voient dans l'avenir, etc. Donc on va tâcher de recueillir cette parole citoyenne pour en faire remonter, je dirais, la synthèse à la commission locale de l'eau qui pilote le SAGE.
Merci Pierre Gottardi. Est-ce qu'on a peut-être donné des actualités, les prochaines actions de France Nature Environnement ou...
Ouh là là, alors, on trouve sur le site. Non mais je voulais faire une info dernière minute. Pardon. Sur la campagne au feu avant de vous rendre l'antenne. C'est juste que FNE au niveau national a mis en place un système qui s'appelle Sentinelle de la Nature, qu'on a déjà présenté. Voilà. Et donc Sentinelle de la Nature lance une campagne participative qui s'appelle Au feu. Hein, le but est de quantifier les brûlages de déchets verts qui ont lieu sur le territoire régional. En effet, cela constituera une base de données nous permettant ensuite d'appuyer des actions de sensibilisation auprès des communes pour les inciter à adopter des solutions de gestion plus adaptées. Pour rappel, le brûlage de déchets verts est interdit par la loi depuis 2020 car nocif pour la santé et l'environnement. De nombreuses solutions alternatives existent, broyage, compostage, paillage, taille raisonnée. Sur Digne, il y a une déchetterie qui accepte les résidus de taille ou de broyage. Pour mettre fin au brûlage des déchets verts, nous avons besoin de vous tous, grâce à notre application, donc Sentinelle de la Nature, soit sur le site, soit directement sur un téléphone. Vous pouvez nous alerter anonymement dès que vous êtes témoin d'un brûlage de déchets. L'objectif, ce n'est pas de la délation, l'objectif, c'est de la connaissance. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître les gens qui brûlent. L'important, c'est de savoir que ça brûle et qu'on puisse le signaler. Voilà. Donc, rendez-vous sur notre site pour en savoir plus ou sur sentinelledelanature.fr pour nous alerter. Et je vous en remercie par avance.
Merci. Bravo, Pierre Gottardi, pour cette belle émission encore de Un moment pour la Terre. Et puis, on rappelle qu'elle sera évidemment en ligne dans la journée et rediffusée très souvent. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup et bonne journée à tous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.